RFI. La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour, la danse des mots aujourd'hui avec un écrivain qui est en face de moi et que je suis très content d'avoir en face de moi pour lui parler parce que si ma mémoire n'est pas défaillante, ce qu'elle est souvent, mais il faudra que je lui demande, je crois qu'il n'est jamais venu dans la danse des mots et c'est un écrivain que je lis depuis de nombreuses années, c'est Boualem Sansal. Boualem Sansal vient de faire paraître pour la rentrée littéraire aux éditions Gallimard Le train d'Erlinger ou La métamorphose de Dieu, puisque c'est un roman qui a un titre et un sous-titre, un beau et gros roman complexe et extrêmement architecturé qui se présente comme une sorte de réflexion à la fois sur aujourd'hui, sur demain et probablement sur hier. Il va nous en dire un petit peu plus. Bonjour Boualem Sansal. Bonjour.
Oui, je confirme que c'est la première fois que je participe à cette émission.
C'est quand même incroyable qu'un auteur que j'admire comme ça ne soit jamais venu baver dans mon micro. Je suis ravi que vous l'acceptiez aujourd'hui.
Merci bien. Bon, alors effectivement, j'étais tenté de mettre dans un livre toutes les réflexions qui m'habitent depuis donc j'ai commencé à écrire. Les idées qui étaient déjà dans le Serment des Barbares et dans le village de l'Allemand et dans 2084, un certain nombre de thèmes qui me sont chers, qui me semblent importants parce qu'ils conditionnent donc le présent mais le futur. Et je crois même qu'ils conditionnent quelque part le passé parce qu'ils vont peut-être nous obliger à le repenser.
C'est ce que vous faites dans votre roman en tout cas.
C'est ce que je fais, voilà. Donc c'était ça mon objectif. Il fallait trouver une histoire qui ne soit pas trop artificielle pour agréger tout ça. L'attentat du 13 novembre 2015 a été le déclic, parce que ce roman je le porte en moi depuis longtemps, mais compte tenu du fait que c'était très compliqué, je reportais ça toujours à demain,
Vous vouliez dire par là que vous aviez un projet de roman et que après les attentats du 13 novembre, vous avez gardé ce projet mais qu'il a été modifié parce qu'il venait de se passer ou qu'il en a tenu compte quoi.
Non, en fait, l'affaire remonte à plus loin. J'étais parti à cause de la guerre en Algérie, l'islamisme, bref, tout ça, et puis qui commençait à s'étendre un peu partout et qui laissait envisager les printemps arabes et tout ça. J'étais parti sur l'idée d'écrire une trilogie. Donc, le premier livre de cette trilogie, c'est un essai, Gouverner au nom d'Allah, dans lequel j'informe le lecteur. Qui n'est pas censé savoir beaucoup de choses sur l'islam, l'islamisme, ni sur le monde arabe, ni ce qui, dans ces pays, est en train de se passer, des révolutions ou des régressions totales ou des révolutions totales. Bon, et j'ai découpé mon travail donc en trois, l'essai, et puis je me suis dit, la deuxième étape, c'est un roman sur l'immédiat, de ce qui est en train de... Parce que l'essai, c'est le passé, donc c'est le prophète et remonter le temps jusqu'à aujourd'hui. Deuxième étape, c'est aujourd'hui, sur un horizon à moyen terme, 4-5 années, sur lesquelles nous avons du pouvoir. Et puis, le long terme, sur lequel nous n'avons absolument aucun pouvoir. J'imagine que les islamistes seraient au pouvoir à l'échelle planétaire, et puis voilà, ce serait un peu 1984 de George Orwell, mais dans un univers...
Déjà, vous aviez touché à ce 1984 en lui donnant une centaine d'années ou un millier d'années de plus.
Voilà, c'est ça. Donc, donc j'ai commencé ces deux écritures en même temps. Oui. Donc l'immédiat et le moyen terme, et le long terme. Mais j'étais plus rapide sur 2084... Et là, j'ai eu beaucoup de difficultés, parce que dans 2084...
Qui est votre précédent roman, donc.
Un précédent roman, publié donc en 2015. Je me sentais libre, parce qu'on parle de choses lointaines, donc appeler le dieu de cette époque, l'appeler Yola. Bon, c'est pas un blasphème, donc on peut dire ce que l'on veut. Peut-être qu'effectivement, le nom d'Allah va changer dans un siècle, c'est tout à fait possible. En revanche, sur l'immédiat... Et le moyen terme, on est là, c'est nous. Et donc, du coup, c'est difficile. Il y a il y a des contre-courants qui se développent, le politiquement correct, il y a un système comme ça de contrôle de la pensée libre qui s'installe. Et donc j'ai eu beaucoup de difficultés à surmonter cela.
Alors Boualem Sansal, dans ce très bel endroit où nous nous trouvons en plein air, ce qui est quand même rare pour faire une interview avec le bruit des tramways qui passent pas très loin, j'aimerais bien vous faire parler de la structure de votre livre, qui est compliquée, qui est complexe et qui, à mon avis, est très prédéterminée. Il y a des voix multiples, il y a beaucoup de citations, il y a des récits, il y a la mise en scène d'un roman en cours, puisque plusieurs des chapitres commencent par roman note 1, roman note 2, roman note 3. Mmh. Et puis, il y a de très jolies lettres qui sont écrites par une mère à sa fille et qui commencent par exemple par « Bonjour Anna chérie, c'est maman. Buongiorno Carita, c'est maman, etc. » C'est extrêmement affectueux, ça a vraiment le son d'une mère qui parle à sa fille, qui lui parle. C'est maman, c'est pas ce qu'on dit dans une lettre, on dit ça en général au téléphone. Alors, première question, vous avez travaillé en amont, vous avez travaillé à l'avance sur la façon dont ces divers segments de votre roman allaient s'emboîter les uns dans les autres ?
C'est très compliqué, ça a été évidemment, vous pensez bien, et vous le dites d'ailleurs, que c'est un cheminement, donc des essais, plusieurs essais. Certains, pour l'immense majorité, n'ont pas fonctionné, donc à chaque fois j'ai changé de fusil d'épaule. Mais moi j'ai une démarche qui m'a accompagné depuis que j'ai commencé à écrire. Quand je veux travailler sur un thème, avant de me mettre à écrire, je vais lire à peu près ce qui a pu être écrit sur ce thème.
Donc il y a un gros travail de documentation préalable.
Absolument énorme, je me nourris par la lecture des réflexions de ces gens, je prends les maîtres, les meilleurs, hein. Et donc je sors, j'essaie d'extraire la substantifique moelle de leur pensée, et c'est elle qui va me guider dans mon travail. Comme par exemple dans Le Village de l'Allemand, j'ai lu beaucoup de livres pour essayer de trouver une ligne d'interprétation des événements et tout. Bon, il m'a semblé que le meilleur, enfin, celui qui vraiment m'a capté, c'était Primo Levi. Donc tout le livre est construit sur l'idée de Primo Levi. Et j'ai continué, puisque je suis allé voir son musée à New York.
Mais vous le dites d'ailleurs dans votre livre, puisque dans ce dernier livre, à un moment, vous écrivez « Mais bon, écrire un roman, c'est d'abord ça. Amasser des documents, rassembler des idées, produire des notes, faire du tout une brassée, ajouter un peu de ceci, un peu de cela, et attendre que ça prenne. Quelque chose viendra. On l'appellera roman si ça se lit et si ça donne à réfléchir. » Alors, j'aime beaucoup ce paragraphe, parce que d'abord, il a cette apparence de la spontanéité, vous dites ça au déballé, comme disait Barthes, comme si ça vous venait. C'est en effet une belle brassée, et en même temps, d'une certaine façon, c'est un art romanesque, comme on parle d'un art poétique, hein, c'est un mode d'emploi.
Ah oui, carrément, j'élabore mon mode d'emploi, donc à plusieurs mois, voire plusieurs années de lecture, de réflexion, de dessin, comment je vais construire ça, est-ce qu'on commence par le rez-de-chaussée ou le sous-sol, et puis qu'est-ce que je vais emprunter. Alors comme je cherche toujours un maître à penser, là ça a été très difficile, parce que tous mes précédents romans travaillent sur un sujet bien précis. Et là, je voulais brasser tout, quoi. Parler de l'islamisme, de l'ultralibéralisme, le capitalisme sauvage, l'émigration, le réchauffement de la planète, tout, quoi. C'est tout ce qui agite l'humanité aujourd'hui. Je me suis dit, pourquoi ne pas traiter, puisque nous sommes dans une, comme en mathématiques, on dit, c'est une fonction à composante principale. Donc, il y a plein de composantes. Donc, pour chaque composante, j'ai choisi celui qui, pour moi, était le plus, le maître à penser.
Donc, Primo Levi, c'est pas le plus mauvais, hein.
Non, Primo Levi, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Mais là, dans ce livre, donc j'ai serré les différents thèmes. Dans tel thème, par exemple, la société vit comme ça. On en parle. Ce mot revient là ces derniers temps. Aujourd'hui, quand on parle de température, on donne toujours deux chiffres. On dit température réelle 30, ressenti 35. Et donc il y a un ressenti aujourd'hui. Nous nous sentons tous cernés. On est la vie qui semblait être complètement ouverte, en expansion, là, elle se replie sur nous, elle nous cerne, elle nous enferme dans nos petits, dans notre précaré, on est réduit à néant. Et moi, pour moi, Le désert des Tartares est un livre magnifique pour expliquer ce que le ressenti peut a comme force, alors que la température en elle-même ne veut rien dire. 37 degrés, quand vous dites ça, un lapon qui n'a connu que les moins 35. Et vous dites plus 35, il ne pourra jamais imaginer ce que c'est. Voilà, et à la limite, il peut avoir un ressenti pour moins 30, parce que c'est peut-être arrivé une fois ou deux.
De plus 35, il ne sait pas ce que c'est. Alors, j'aimerais bien lire justement ce qui termine votre roman, parce que là aussi, ça fait écho à cette espèce de mode d'emploi, puisque tout se termine avec une petite fille qui écrit une lettre. Il y a beaucoup de lettres dans votre roman. J'ai voulu moi aussi écrire une histoire, celle des potiers. Voilà pourquoi je vous écris, j'ai 1000 questions à vous poser. Et la petite fille pose des questions. Quand et dans quel pays vos ancêtres ont-ils émigré et comment ont-ils gagné leur fortune? Comment s'appelait le premier migrant? D'où est-il parti? Dans quel bateau? Vers quelle ville? Et comment a-t-il été accueilli? Est-ce qu'il y avait des habitants dans ce pays? Étaient-ils des sauvages comme les Indiens? Quelle langue parlaient-ils? Vos ancêtres avaient-ils des esclaves noirs? Étaient-ils esclavagistes ou partisans de l'abolition? Pourquoi les descendants de vos ancêtres sont-ils revenus en France? Etc. Eh bien, ça fait en effet une belle brassée de questions auxquelles on peut chercher des réponses.
La danse des mots, Yvan Amar.
La danse des mots, toujours avec vous, Boualem Sansal, à propos de ce livre qui vient de sortir, Le train d'Erlingen ou La métamorphose de Dieu, qui est bien sûr un livre écrit en français, où on trouve un certain nombre de langues. Il y a du français, mais il y a pas mal d'allemand, ne serait-ce que dans le titre, Le train d'Erlingen. Ça se passe en Allemagne, ou en tout cas la correspondance se fait entre Erlingen et Londres, ou bien entre l'Allemagne et d'autres contrées. Il y a un petit peu d'anglais, il y a même parfois du latin. Ça comptait pour vous qu'il y ait justement ce frottement de langues diverses?
Mais absolument. Mais déjà, chaque pays a sa langue. Donc il faut quand le...
Quelle est votre langue maternelle?
Moi, c'est le français, parce que quand je suis né, l'Algérie était française et je suis d'une famille francophone. Donc je suis né là-dedans. Puis c'est beaucoup plus tard que l'arabe n'était pas enseigné, ni le berbère. Moi, je suis berbère. N'était pas enseigné. Donc c'est après l'indépendance que l'arabe est devenu langue nationale et on l'enseignait, mais j'étais déjà trop âgé pour l'apprendre facilement. Ça a pris beaucoup de temps. Et le berbère était plutôt une langue interdite. Hein. Ce n'est que récemment, après mille et une révolutions, je dirais, hein, de guerres, de morts, et que le berbère est maintenant dans la Constitution comme langue nationale, mais pas langue officielle. Voilà. Et donc j'ai toujours vécu dans le français.
Vous avez toujours vécu dans le français avec des langues autour de vous qui étaient soit minorées, soit interdites. Alors, il y en a des éclats dans votre roman, très indirect, mais quand même, il est question à un moment d'une missive qui est écrite dans une lettre interdite. La missive écrite sur un bout de peau de mouton dans une langue archaïque qui ne put être déchiffrée que très approximativement et qui comptait une demi-ligne. La soumission ou la mort, à moins que ça soit la vérité et la mort, ou bien... la victoire vers rien, la fin, seulement la fin. Bon, il y a une formule énigmatique que personne ne comprend. Est-ce que là aussi, c'est une espèce de photographie ou de précipité de ce que doit être un roman? Ça dit quelque chose, on peut le comprendre, mais peut-être que ça veut dire le contraire.
Mais le roman, il faut s'interdire de l'écrire en entier, sinon c'est plus, on n'est plus dans la littérature. Il faut rester modeste et écrire, disons, 50% et laisser 50% au lecteur.
C'est très généreux de votre part.
Voilà. Ben, de toute façon, lui le lira à sa manière. Voilà. Et si le lecteur, à un moment donné, ne s'approprie pas le livre pour le remodeler ou le réinterpréter, pour lui, ce sera un mauvais livre. Il sera ésotérique et donc il ne le lira pas ou il n'en tirera pas profit, ne le méditera pas. Donc il faut le laisser. Voilà, je construis le bateau, mais c'est lui qui va le piloter. Comme il veut. Il peut aller... Ce livre a, par certains, été par exemple, non vu que le côté, c'est comme ça qu'ils l'ont vu, comme côté islamophobe. Et ce livre est écrit pour dénoncer l'islamisation du monde, donc l'islam, etc. Bon, ça, certains lecteurs, de toute façon, quoi que vous leur disiez, et même si j'avais écrit le livre en entier, posant les questions et répondant aux questions, ils auraient fait cette... cette interprétation et le lirait sous cet angle-là. Donc il faut accepter que, une fois le livre fini, il appartient au lecteur qui le lira comme il veut, il l'interprétera comme il veut.
Alors, Boualem Sansal, je reviens aux indications que vous donniez tout à l'heure, à savoir l'espèce de recette de cuisine pour écrire un roman. Il faut amasser des documents, rassembler des idées, produire des notes et faire de tout ça une brassée. C'est donc ce que vous avez fait pour essayer en même temps d'inventer des histoires qui soient à l'image de l'histoire, disons, pour faire vite, de l'Europe depuis le milieu du 19e siècle. Il y a, comme vous le dites, oui, ça va même plus loin, hein, bon. Mais il y a des mystères anciens qui peuvent amener aux mystères modernes. Est-ce que c'est l'un des rôles du romancier, justement, de faire de l'histoire pour qu'on puisse essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui ?
Je ne sais pas si c'est faire de l'histoire, mais enfin, c'est mettre en mouvement sa pensée. Tout simplement, le lecteur est comme l'écrivain, ils amassent des données, ils en font une brassée, et puis ils se font une ligne de conduite. Et évidemment, ce n'est pas avec ce seul livre qu'ils vont se déterminer, c'est tous les livres qu'ils ont lus au cours de leur vie. C'est comme ça qu'ils se construisent. Mais l'histoire est un élément, comme la science est un élément de explicatif de la vie de l'homme, comme la biologie, comme c'est un tout, quoi. C'est interactif, hein, ça. Les relations changent tout le temps, évoluent.
Alors d'où vient-elle votre histoire, celle que vous racontez dans le train d'Erlingen et qui, à partir donc de cette correspondance entre une mère vieillissante et puissante parce que riche, héritière d'une grande famille industrielle et qui a encore beaucoup d'argent et beaucoup de pouvoir, vous revenez sur l'histoire, sur la préhistoire on peut dire de cette famille et sur un premier déplacement qui va pousser un certain nombre de gens à quitter l'Europe pour aller s'établir en Amérique, gagner de l'argent, y revenir. Est-ce que vous vous êtes inspiré d'histoires réelles, de grandes dynasties industrielles? Quelle est la part de l'invention? Quel est le plaisir même de l'invention? Et quelles sont la part et le plaisir de ce que vous avez pu voir dans des archives?
Les frontières ne sont pas très visibles. C'est comme aujourd'hui en Europe. Jusqu'à Schengen, il y avait des frontières bien délimitées, hein, donc, bien gardées. Bon, on a supprimé les frontières intérieures, donc maintenant, où commence l'Allemagne, où finit la France, où commence l'Italie, c'est pas très évident, quoi. Non, il y a eu des déclics. Il y a eu des déclics dans ma tête. Un des déclics, ça a été il y a plusieurs années, je me trouvais à Bremerhaven et on me propose d'aller visiter le musée de l'émigration. Il y a un musée de l'immigration qui est absolument... Il faut absolument aller le voir.
Vous en parlez dans la dernière page de votre roman, d'ailleurs, de ce musée. Vous le mentionnez.
Voilà, j'en parle dans plusieurs endroits, mais à un endroit, je le décris de manière assez réaliste. Et donc, j'ai visité, et là, j'étais très étonné de découvrir que... puis un peu plus tard, j'ai visité son équivalent à Hambourg, le musée de l'immigration de Hambourg, de ces deux ports seulement... Entre le 18e et le 19e siècle, plus de 15 millions, 17 millions, enfin les chiffres ne sont pas très précis, entre 15 et 17 millions d'Allemands ont émigré dans le monde, notamment en Amérique, mais aussi en Amérique du Sud, mais aussi en Afrique, en Rhodésie, à droite, à gauche, et en Asie. Et donc c'est une émigration, un mouvement de population qui part. Ils partent pour des raisons multiples, la misère, la persécution, l'envie d'aventure, etc., etc. Mais sur leur route, ils rencontrent aussi des peuplades, des peuples qui sont... Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils les ont exterminés, tout simplement. Ils les ont exterminés et ils ont pris leur place. Donc c'est le grand remplacement. Les Européens ont exterminé les Indiens et les ont remplacés. Et l'Amérique est devenue un pays d'Américains, alors que c'est un pays d'Amérindiens. Et donc ça a commencé à me faire réfléchir. À cette époque, il y a 5-6 ans, déjà on parlait beaucoup de l'immigration clandestine, tout le monde dénonçait cela, enfin, certains disaient quand même que c'était une chance, que c'était positif. Et est-ce que les mouvements migratoires d'hier, d'aujourd'hui et de demain se font de la même manière? Est-ce qu'ils produiront les mêmes effets? Destruction d'un peuple, remplacement, ou est-ce fusion, mariage, d'amour? Ces questions-là se posent. Donc je me l'étais beaucoup posé. Je suis moi-même né dans un pays qui a connu l'islam. Voilà, il y avait...
Un pays, l'Algérie.
Voilà, il y avait... Non, l'Algérie a été créée par les Français.
Oui.
Il y avait un territoire.
Oui, un territoire,
des tribus, exactement oui. comme les Indiens. Ouais. Chaque tribu avait son territoire et ignorait tout des autres. Les Français arrivent, bon...
Et ils inventent l'Algérie.
Voilà. Ils repoussent tout le monde à machin. Ceux qui sont exterminés l'ont été. Ceux qui ont fui sont partis ailleurs. Et bien, ils sont partis ailleurs. Et voilà, donc, un grand remplacement. Et avec de nouvelles valeurs, une nouvelle civilisation, etc. Alors ça, l'Allemagne, l'Algérie, plus que nous savons de l'Amérique, etc. C'est tout à fait à ce moment légitime de dire, bon, ça c'est le passé. Quid d'aujourd'hui ? Quid de demain ? Demain, par exemple, à cause du réchauffement climatique, il va y avoir des millions, des dizaines de millions, peut-être des centaines de millions de gens qui vont quitter leur territoire et aller vers des terres fertiles qui peuvent les accueillir. Donc ils vont rencontrer des gens. Qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Ils vont pactiser avec eux, ils vont partager, ils vont les tuer, ils vont... Voilà, donc c'est une question d'hier, d'aujourd'hui, et demain elle va être forte.
La danse des mots qui aujourd'hui prend donc le train d'Erlingen, c'est le nom de votre dernier roman, Boualem Sansal, publié chez Gallimard et sous-titré La métamorphose de Dieu, où on parle de l'avenir proche et du passé, en essayant de souligner des différences qui sont nombreuses, et en particulier à propos de ce qu'on arrive à toucher et à comprendre. Qu'est-ce qui est tangible et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Le tangible, me semble-t-il, a beaucoup changé entre une période assez récente et aujourd'hui. Et vous en faites l'écho dans ce que vous dites. Par exemple, à un moment, vous écrivez « La petite Erlingen est certes de loin la plus riche du pays. » Il s'agit de la ville, hein, la petite ville d'Erlingen. Mais son argent s'est depuis longtemps dématérialisé. Personne ne sait où il se promène, de quelle façon il se bonifie, comment il se dépense. Il a tout simplement échappé à l'attraction de la Terre et au radar des satellites. Ici, réellement, l'argent n'existe pas. Chez les grands, il n'est qu'écriture comptable virtuelle dans les bilans de leurs banques, et chez les petits, il n'est que papier et piécettes sans valeur. Si l'envahisseur avait des idées de pillage en tête, Erlingen n'était clairement pas la bonne adresse. Alors, est-ce que vous avez l'impression, Boualem Sansal, qu'en effet, le rapport au matériel est très différent aujourd'hui de ce qu'il était il y a quelques années ?
Je crois pas. Non, je crois pas. C'est que le matérialisme, la matière, c'est la vie tangible à laquelle les gens sont confrontés. Donc, il faut se nourrir, il faut se soigner, il faut se chauffer, il faut. Donc, il faut voyager pour se déplacer. Donc, non. Mais en revanche, ces choses qui étaient, on va dire, des actes naturels, enfin, ils le sont devenus après des millénaires d'eux, aujourd'hui semblent être nous échapper et être dictés par des superstructures. Qui nous, je sais pas, pour nous c'est pas, par exemple, naturel de manger du sucré. C'était pas naturel. Nous sommes des animaux. Les animaux détestent le sucre. Et ben aujourd'hui nous ne vivons que de sucre parce qu'on nous a ordonné par la publicité, par la façon de...
Oui, comment ça s'est fait à voilà. Votre avis, c'est bizarre.
Reconditionné en fonction de des intérêts ou des stratégies de grandes entreprises, de grandes banques. Par exemple, on nous a le pétrole était abondant jusqu'à une date récente, peu cher, donc on nous a poussé à nous déplacer, ce qui n'est pas naturel aussi. Les gens ne se déplacent qu'à l'intérieur de leur village, jamais plus loin. Et là, tout d'un coup, on est pris de leur vie féroce d'aller visiter la Thaïlande, je sais pas quoi, la Patagonie, que nos ancêtres ignoraient totalement. Donc, eh ben voilà, donc on nous pousse à acheter des voitures et à beaucoup rouler pour rien, pour consommer ce pétrole. Maintenant que le pétrole manque, le discours est en train de changer. Restez chez vous, on va vous amener des images. Vous n'avez pas à visiter la Patagonie, je vous amène les images sur votre télévision alors que vous êtes dans votre lit. c'est mieux. Vous, comme ça, vous...
Et peut-être vous aurez du mal à faire la différence entre la Patagonie réelle et la Patagonie absolument. Qu'on vous amène dans votre lit.
Oui, de toute façon, comme vous n'avez aucune possibilité d'aller voir la Patagonie, ce qu'elle est devenue, peut-être elle a disparu, ben, vous vivez sur un mythe. C'est toujours le ressenti, hein, on est dans le ressenti. Et là, ces choses-là sont si bien faites que vous avez réellement l'impression, avec le 3D, avec... qui va, et je sais pas, et les cinémas, trois trucs, je sais pas quoi, vous êtes réellement en Patagonie.
Alors, Boualem Sansal, jusqu'à maintenant, j'avais l'impression que je parlais à l'auteur, à l'écrivain, j'aimerais bien m'adresser au lecteur. Puisque je vous ai demandé ce que c'était pour vous qu'un roman, j'aimerais bien vous demander si vous avez l'impression que vous apprenez beaucoup de choses sur le monde contemporain en lisant des romans, autant qu'en faisant les recherches que vous faites, par exemple, pour préparer votre écriture romanesque.
Oui, mais c'est vrai que il m'arrive quand même, quand c'est possible, d'aller vérifier sur le terrain. Par exemple, quand j'écrivais Le village l'Allemand, j'ai ressenti le besoin. J'avais évidemment les banlieues difficiles, islamisées, etc., radicalisées. Il y avait l'Algérie, on était couverte. À 100 mètres de chez moi, il y avait une cité comme ça. Donc, mais comme je déplaçais la scène en Europe, j'avais besoin de vérifier si ce qu'on lit dans les journaux, dans certains livres, tout ça est vrai. Donc j'ai pris mon bâton de pèlerin et j'ai visité, je ne sais pas, 40-50 banlieues en France, en Belgique, en Allemagne. Et là, à chaque fois que c'était possible, comme par exemple, je suis à Besançon, si j'étais à cette époque-là, j'aurais demandé où sont les quartiers machin, et je serais allé voir. Je venais avec un ressenti, puis je découvrais une réalité. Il y a toujours des écarts entre la théorie et la pratique.
Mais là, vous parlez de la façon dont vous lisez le grand livre du monde, disons.
Oui.
Et dans les livres, est-ce que vous en apprenez autant ?
Oui, et voilà. Et donc, beaucoup de gens ont écrit. Mon ami Georges Bensoussan a dirigé l'écriture d'un livre collectif, c'est « Les territoires perdus de la République ». Donc ce sont des chercheurs qui, chacun a fait son bout de texte. Je les ai lus, je vois aussi leur interprétation. Les uns sont historiens, ils l'expliquent d'une manière. Les gens sont psychologues, ils l'expliquent d'une autre manière. Les autres sont plus, je sais pas, dans l'économie politique. Donc ils l'expriment, ils justifient ça, ils regardent avec des lunettes d'économiste. Et donc j'avais plusieurs regards sur plusieurs interprétations, mais aussi des romans. Il y avait beaucoup de romans là-dessus, mais pas seulement, des chansons. Il y a, par exemple, beaucoup de la chanson.
Quel genre de chanson, par exemple ?
Par exemple, j'en parle parce que Rachida est mort il y a 48 heures. Rachida a chanté les chansons d'Ahmed Al-Harachi, qui est un immigré, qui est algérien tout jeune, qui a roulé sa bosse misérablement en France, mais il chantait. Et il est devenu, pour les Algériens, l'équivalent de, on va dire, Brassens. Voilà, il y a un message, des chants populaires très formidables. Ben, vous connaissez évidemment la chanson que chante Taha, Raya, c'est-à-dire « Toi l'émigré ». Donc, à travers les chansons...
C'est vrai que « Toi l'émigré », ça fait penser à « Toi l'Auvergnat », quoi.
« Toi l'Auvergnat », voilà, oui, absolument, oui. J'aurais dû, d'ailleurs, c'est ce que j'aurais dû dire. Et puis, les récits que l'on entend dans les cafés, dans les trucs, dans les familles, nous sommes dans nos familles... Il n'y a pas une famille algérienne qui n'a pas un émigré... quelque part, généralement en France, mais aussi au Canada, aux États-Unis, où les choses ne sont pas vécues de la même manière. Parce que là, évidemment, en France, il y a le poids de l'histoire, la colonisation, la décolonisation, la guerre avec l'Amérique. Nous, on est un émigré parmi des millions d'autres. On est anonyme dans sa solitude.
Eh bien, merci beaucoup, Boualem Sansal. Merci de nous avoir accordé cet entretien à propos de ce beau livre que je conseille à tous nos auditeurs. Merci encore, Boualem Sansal, pour ce Train d'Erlingen, cette métamorphose de Dieu chez Gallimard. Et vous nous en avez parlé dans La Danse des mots, qui est une émission proposée par le réseau Canopé et par RFI. Lucie Bouteloup, Véronique Durand, Yvan Amar.